Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral.
Pour cette émission d'Évangile et liberté, Michel Barlot, auteur prolifique, est notre invité. Michel Barlot, chrétien libéral, montre que la liberté humaine est l'un des premiers messages de Jésus. Et nous verrons comment il fait le lien avec le message d'amour. Trois exemplaires du journal du protestantisme libéral Évangile et liberté sont envoyés à tous ceux qui en feront la demande à Karim, au secrétariat et au téléphone suivant 09 53 43 45 71. Michel Barlot, bonjour.
Bonjour.
J'ai reçu votre dernier livre, ou avant-dernier, j'en ai reçu deux finalement, mais aujourd'hui nous allons parler de celui qui est publié aux éditions Empreintes, pour un christianisme de liberté. Vous profitez de ces temps difficiles pour écrire, Michel ?
Non, en fait, c'est un très vieux projet. Hein. J'allais dire, ça remonte presque à l'enfance. Enfin, je détaillerai peut-être tout à l'heure. Et puis, le projet s'est précisé de plus en plus. Il y a quelques mois, Christiane, mon épouse chérie, m'a dit « J'y comprends rien au péché, explique-moi ». Alors je me suis mis à écrire, puis ça a donné un livre entier sur le péché que j'ai présenté donc à l'éditeur. Il m'a dit « Oui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le péché préoccupe beaucoup les chrétiens ». Et puis en fait, votre projet, il est beaucoup plus vaste. Et alors effectivement, je me suis aperçu que ça faisait partie d'un projet beaucoup plus vaste, hein, sur l'idée que finalement, l'essentiel du christianisme, ça tient peut-être au mot « liberté ». Ça remonte à l'enfance, en fait. Hein. Il se trouve que, je ne sais pas si c'est le lieu de le raconter, mais enfin, si, peut-être, parce que finalement, un livre a souvent des racines très profondes. Et là, ça remonte à mes 12 ans. Comme je suis orphelin de guerre, j'ai fait mes études dans une école militaire de stricte observance, donc, habillé en petit soldat, le crâne tondu, etc., dans une école qui était en même temps une caserne, gardée en armes par une sentinelle, Dieu sait pourquoi, jour et nuit. Et un bel après-midi, je me suis mis dans un coin tranquille de la cour de récréation pour lire les Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu. Et alors là, je crois que j'ai découvert que le Christ était liberté. Enfin, les murs bien couverts de barbelés de l'école se sont évaporés et j'ai senti que Christ, c'était ma liberté, que je pouvais être un enfant prisonnier d'une école bien stricte, mais quand même, au fond de mon cœur, j'étais libre grâce à l'Évangile.
Alors, vous évoquez en effet ce mot, la liberté pour un christianisme de liberté, c'est le titre. Et en même temps, votre livre commence par une précision lexicale qui va caractériser les 14 chapitres de votre livre. Et vous préférez le terme « délivré » à celui de « libéré ».
Oui, ça a été un bénéfice très secondaire de cette écriture. Je me suis aperçu qu'effectivement, pour les puristes, pour Littré, Adolphe Thomas, etc., les mots n'avaient pas exactement le même sens. Un prisonnier était libéré quand il avait achevé la peine de prison qu'il avait méritée à cause d'une mauvaise action. Et au contraire, on délivrait quelqu'un qui était retenu indûment par des kidnappeurs, par exemple, etc. Et donc, je pense que le Christ nous a délivrés et non pas libérés.
Alors, vous profitez de cette précision-là, en effet, peut-être qui pourrait nous surprendre, pour commencer vos 14 chapitres, toujours dans la même, avec cette même, je crois on dit anaphore, « Christ délivre, nous délivre ». Alors, nous délivre du sacré, nous délivre du surnaturel, nous délivre de la mort, 14 thématiques sur lesquels on va peut-être tranquillement revenir. Moi, il y en a qui m'ont plus interpellée que d'autres, mais peut-être que vous allez nous dire pourquoi ces 14-là, pourquoi ce choix finalement de ces angles-là, ces directions que vous avez prises. quant à cette notion de liberté par rapport à Christ?
Le premier chapitre, donc, Christ nous délivre du sacré. Au départ, ça a été une conférence que j'ai donnée pour les amis de Louis Hevelie. Alors, Louis Hevelie, il faut peut-être le préciser, parce qu'il est plus, il n'est plus très connu aujourd'hui, bien qu'il ait eu de son vivant des tirages de best-sellers. C'est un théologien catholique qui est devenu protestant libéral, d'ailleurs, à la fin de sa vie. Il écrivait dans l'Évangile des libertés. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Je puis dire que mon adhésion à l'Église protestante lui est en grande partie due, et je ne suis pas le seul, hein. En fait, je me suis aperçu dans ma paroisse de Lyon-Thérault qu'on était au moins trois à être venus au protestantisme grâce à Louis Hevelie. Donc, j'avais fait une conférence pour les amis de Louis Hevelie, il est mort dans les années 80, sur le sacré. Et effectivement, je crois que c'est une notion qui est très importante dans nos dialogues écuméniques, parce que je pense qu'un certain nombre de chrétiens, plutôt dans les églises catholiques et orthodoxes, mais pas seulement, hein, sont prisonniers d'une certaine idée du sacré, un sacré qui sépare, comme dans les religions païennes, hein, et qui, d'une certaine façon, est exactement l'inverse du christianisme, puisque le christianisme, c'est la religion de l'incarnation d'un Dieu qui se fait homme. Plus de séparation entre le divin et puis notre domaine humain. Hein, Christ est venu vraiment partager pleinement notre humanité dans toutes ses contingences, dans toutes ses difficultés, etc. C'est à partir de là, je pense, que tout se noue.
Donc voilà, nous délivre du sacré, en effet, c'est le premier chapitre. Je continuerai volontiers avec le deuxième. Quand vous nous dites « le Christ nous délivre du surnaturel », et ce que j'en dirais, c'est de dans votre présentation, c'est que finalement, nous n'avons pas besoin de croire au miracle pour avoir foi en Jésus-Christ.
Oui, je crois que c'est une vieille idée. On la trouve déjà chez Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, hein, que finalement, les chrétiens, peut-être autrefois, ont été chrétiens, sont peut-être venus à la foi grâce au miracle, mais je pense qu'aujourd'hui, ils deviendraient chrétiens malgré les miracles. Christ n'avait pas besoin de faire des guérisons pour nous prouver son message d'amour, de fraternité, etc. Et on a un peu l'impression, mais je me demande si une lecture attentive de l'Évangile ne mène pas finalement à la même conclusion. On a un peu l'impression que trop de gens venaient au Christ pour ses miracles et du coup ça les empêchait, et non pas ça les aidait, d'adhérer à son message d'amour et de fraternité humaine. Je pense qu'effectivement, un certain nombre d'églises ont fait fausse route, je pense à certaines dérives du catholicisme, mais on pourrait en dire autant de certaines églises évangéliques. Hein, je pense par exemple à ces petites affichettes qui étaient affichées partout dans ma ville il y a quelques années, hein, qui annonçaient une grande conférence d'une église africaine, avec des miracles de guérison. Je pense qu'on fait fausse route en prenant cette direction.
Alors, vous venez de citer Jean-Jacques Rousseau, mais votre livre, ce n'est pas seulement une démonstration comme ça, philosophique, ou qui émanerait de votre propre réflexion. C'est aussi un livre qui s'appuie sur les pères de l'Église, qui s'appuie, et bien évidemment, sur les textes des évangiles, qui s'appuie sur des théologiens, qui s'appuie sur des philosophes. C'est un livre très, très documenté, informé. Vous n'inventez pas, Michel Barlot, vous servez des fondations théologiques, historiques, philosophiques.
Oui, c'est vrai, hein. Moltmann, que j'aime beaucoup, enfin, dit quelque part que finalement la théologie doit toujours aboutir finalement en action de grâce. Et je crois qu'il n'y a pas de mur de séparation effectivement entre la prière et la réflexion. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand on essaye de prier. Il n'est pas interdit de prier quand on essaye d'avoir l'intelligence de sa foi, ce qui est la meilleure définition de la théologie. Enfin, théologie qui ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes, mais qui finalement, comme disait Raphaël Picon, s'adresse finalement à tous les chrétiens. Dès l'instant où ils se mettent à réfléchir, Et encore une fois, c'est pas interdit de réfléchir en priant, c'est pas interdit de prier en réfléchissant. Et bien à ce moment-là, ils découvrent petit à petit et à leur niveau ce que peut être la théologie, hein, une réflexion en Dieu plutôt qu'une réflexion sur Dieu.
Si on continue comme ça à picorer parmi les 14 chapitres, quelques autres, vous avez commencé par évoquer le péché et vous nous dites dans le 6e chapitre, Christ nous délivre de l'obsession du péché, vous nous dites finalement, le seul péché, c'est de renoncer à s'épanouir en plénitude, refuser de réussir totalement son humanité, refuser d'être heureux. Peut-être la question finalement que je me poserais, moi, c'est mais comment on fait finalement ? Vous avez dit ça, d'accord, mais comment on fait pour accéder à cette plénitude-là ?
Oui, moi, ça me semble important. Vous nous disiez que finalement, ma réflexion s'enracine, c'est un beau compliment, s'enracine dans l'écriture, et c'est vrai, mais je crois que l'écriture, il faut vraiment la prendre au sérieux, et c'est pour ça qu'à 50 ans, je me suis mis à apprendre le grec pour pouvoir lire l'évangile dans le texte. C'est pas absolument évident d'ailleurs, hein, d'apprendre une langue étrangère à 50 ans, surtout quand c'est le grec. Et c'est vrai qu'en grec, le mot qu'on traduit par péché, amartano, ça veut dire rater sa cible. Ça voudrait dire donc que le péché, c'est peut-être d'abord une offense non pas à Dieu, mais à soi-même, à l'image que Dieu a rêvée pour nous, à cet être pleinement épanoui qu'il a rêvé pour nous, et puis qu'on n'arrive pas totalement à réaliser. Alors je pense que pour répondre précisément à votre question, il y a une chose qui me paraît importante. Dans ma jeunesse, j'ai été beaucoup marqué par la spiritualité ignatienne, la spiritualité d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui n'est pas d'ailleurs aussi étranger qu'on pourrait le croire à une réflexion protestante. Et il a en particulier une méthode de lecture qui est très intéressante de l'Évangile, hein, qui consiste vraiment à vivre l'Évangile, à essayer de sentir, à imaginer, à essayer de voir, à essayer d'entendre, etc. Une façon vraiment très vivante de vivre l'Évangile. Et alors, il propose aussi de faire chaque soir une espèce de relecture de sa vie, enfin, non pas pour faire le décompte de ses péchés, hein, mais pour essayer de voir quelles sont les traces du royaume qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Alors, curieusement, cette année ou l'année dernière, plutôt, il y a une dame âgée de la paroisse qui disait « Ah ben moi, ça me parle ce que vous dites là, Michel, parce que tous les soirs, j'essaye de repérer dans ma journée trois signes du royaume de Dieu. Et j'accepte pas de m'endormir tant que j'en ai pas trouvé trois. » Je trouve que c'est merveilleux. C'est peut-être une façon de répondre à votre question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a été un signe du royaume de Dieu ? Il faut bien le reconnaître que parfois c'est un signe négatif. Il faut penser au conditionnel passé. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû dire ça, etc. etc. Je crois que c'est ce regard sur sa vie, hein, qui nous permet peut-être d'avancer dans cette direction, vers une vie plus épanouie. Ce que Jean, l'évangile de Jean, appelle finalement la vie éternelle. Pas forcément une vie après la mort, mais une vie en plénitude en Dieu dès maintenant.
Alors, dans le chapitre 11, vous abordez l'aspect du corps. Vous nous dites, Jésus-Christ nous délivre de la honte de notre corps, alors qu'il y aurait un idéal de vie asexuée qui serait lui, prôné par le christianisme. Alors, vous faites souvent ce parallèle entre finalement le message du Christ et ce qu'on en a fait, nous, dans le christianisme. Ce décalage-là, il est montré tout le temps dans votre livre, comme si on avait détourné systématiquement le message de l'Évangile.
Oui, je le crois profondément, hein. Et en particulier pour ce qui concerne le corps, Jésus est accusé d'être un ivrogne et un glouton par ses adversaires, hein. Ça veut dire qu'il était sans doute ce qu'on appelle aujourd'hui un bon vivant, enfin quelqu'un qui savait profiter de sa pleine humanité, hein, rendre grâce avec tout son corps, non seulement avec la prière qui jaillissait de ses lèvres ou qu'il formulait dans son esprit, mais avec tout son corps, il était perpétuelle louange à Dieu. Et je pense que j'aurais envie de dire, prenons-en de la graine. Je commence d'ailleurs le livre par une espèce de parabole du semeur à ma façon, hein, le Christ qui sème des graines de liberté, des graines d'humanité. Et son seul désir, c'est que ces graines s'épanouissent, germent en chacun de nous.
Et d'autant que vous nous dites bien aussi que ces règles de la vie sexuelle ne sont pas, somme toute, différentes de la morale commune. Qu'autrui soit pour toi visage de Dieu, vous citez Matthieu 25, et ce que tu fais à quelque humain, que ce soit, c'est comme si c'était à moi que tu le faisais. Finalement, vous nous dites que tout est rassemblé dans quelques versets.
Dans la parabole du jugement dernier, hein, parce que je crois qu'il faut bien voir que c'est une parabole. On en a souvent fait une prophétie menaçante de ce qui nous attendait, aïe aïe aïe, à la fin des temps, autrement dit à la fin de notre temps, au moment de notre mort. Alors qu'en fait, si on regarde l'évangile de Matthieu, ça se présente au milieu de tout un ensemble de paraboles. Il faut donc l'entendre comme une parabole. Ce qui ne veut pas dire que ce soit moins exigeant, bien au contraire. Une parabole, c'est quelque chose qui interpelle ma vie d'aujourd'hui. C'est donc pas demain, disons, le plus longtemps possible, quand je mourrai, je serai jugé. Non, c'est dès maintenant, je suis jugé par mes actes. Et mes actes, eh ben, ce n'est pas mes actes de piété. Ce qui fait que je peux devenir un béni du Père, comme dit cette parabole, c'est le fait de venir en aide à tous ceux qui sont dans la misère, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, etc. Je crois que le message est tout à fait clair, si on veut bien le reconnaître. Et puis, il y a cette vérité qui, pour moi, est essentielle dans le christianisme, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, dit le Christ et Dieu à travers lui, c'est à moi que tu le fais.
Il y a une autre parabole qui court tout le long de votre livre, que vous citez à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Mm-hmm. Et pour nous dire finalement qu'il y a des erreurs d'interprétation dans cette parabole, rien que lorsqu'on lui donne le titre « L'enfant prodigue ». J'ai l'impression que vous l'avez utilisé à plusieurs reprises.
Oui, parce que pour moi, c'est l'essentiel de l'évangile de Luc. Pendant mes études de théologie, un professeur de Bible un petit peu facétieux m'avait dit « Résumez-moi l'évangile de Luc en un seul mot. » Alors, je lui avais répondu « Miséricorde ». Il s'était mis une très bonne note, c'est une chose qu'il avait dite dans son cours quelques semaines avant. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais plutôt la joie, mais la miséricorde, c'est pas mal non plus, parce qu'effectivement, pour moi, le cœur de l'évangile de Luc, c'est vraiment cette parabole, complètement irréaliste. Ça contredit absolument toute la législation, toutes les habitudes de la société du temps de Jésus. Même la morale religieuse, disons, de son temps, ce père, et puis aujourd'hui encore, je pense que ça choque. Je me souviens que j'en avais parlé avec un catéchumène protestant qui me dit « mais il est complètement fou ce père, il n'aurait pas dû accueillir son gamin comme ça, il aurait dû flanquer une raclée, oui ». Mais c'est une parabole, c'est-à-dire un message porteur. C'est souvent très caricatural, les paraboles. Il y a tellement d'exagérations, etc. Mais je pense qu'à travers ces exagérations, à travers cette poésie, il faut bien l'appeler par son nom, Jésus nous dit quelque chose de très profond sur Dieu. Ce Père infini d'amour. Dieu est amour, comme dit la première épître de Jean. Mais je crois qu'effectivement, là, on a le cœur de l'évangile de Luc. L'évangile de la miséricorde et de la joie.
Dans la conclusion que vous intitulez « La vérité vous rendra libre », vous faites une interprétation de la déclaration de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une conclusion qui pour moi donne aussi la clé de votre livre au fond, quand vous dites encore « Seule l'expérience d'un grand amour humain peut radicalement mettre en chemin ». Alors, comment est-ce que vous faites ce lien-là entre ce grand amour humain que vous évoquez et cette phrase, cette déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne semble pas qu'il y soit question d'amour humain dans cette déclaration de Jésus.
Oui, mais je pense qu'on a toujours intérêt à essayer de comprendre les réalités religieuses par rapport à notre expérience humaine. Enfin, et pour moi, l'expérience humaine la plus humaine, la plus importante dans ma vie, ça a été la rencontre de, enfin, celle qui est mon épouse depuis bientôt 50 ans, hein, et le début d'un grand amour. Pendant mes études de théologie, un professeur, un jour d'examen aussi, m'avait dit « Ah, vous devriez écrire un jour un livre sur le couple ». Et effectivement, on a écrit à deux plumes un livre qui a été publié chez Desclée de Brouwer il y a bien des années, hein, qui s'appelle « Le couple chemin vers Dieu ». Je pense qu'effectivement, l'expérience d'un grand amour humain, quand on y réfléchit, quand on essaye d'y trouver, comme je disais tout à l'heure, des signes du royaume de Dieu, et ce n'est pas difficile, cette expérience d'un grand amour humain nous met en chemin pour comprendre ce qui est l'essentiel, sans doute, du message du Christ, et que la première épître de Jean, comme je disais tout à l'heure, formule à sa façon « Dieu est amour », un océan d'amour infini. Et, comment dirais-je, est sensible à l'expérience d'un amour humain, enfin, dans un couple aimant, hein, cette espèce de plénitude, on a l'impression qu'on n'atteindra jamais le bout, cette espèce de plénitude, je pense qu'on est en chemin pour comprendre ce Dieu dont le nom propre, c'est amour. Alors, vous disiez qu'effectivement, la vérité vous rendra libre, c'était le titre du chapitre, et c'est emprunté au chapitre 8 de l'évangile de Jean, et c'est juste après l'épisode de la femme adultère. Et alors, c'est intéressant parce que cet épisode de la femme adultère donne l'exemple de la façon dont certains esprits religieux, en l'occurrence ce sont des pharisiens, grands ennemis dans l'évangile de Jean, historiquement peut-être pas aussi net que ça, mais enfin peu importe. Donc ces pharisiens, ils tordent un petit peu à leur façon la parole de Dieu en disant « ces femmes-là, la loi de Moïse nous dit qu'il faut les lapider ». Mais quand on regarde le texte de Lévitique auquel ils font allusion, ce n'est pas ces femmes-là qu'il faut lapider, c'est le couple adultère. Autrement dit, ils ont un petit peu arrangé à leur façon la parole de Dieu, hein, pour en faire une espèce de règle. Autrement dit, comme certains esprits religieux, au lieu de s'inspirer de la parole de Dieu, ils se servent de la parole de Dieu pour appuyer leurs propres positions, leurs propres idées. Donc je pense que c'était un bon exemple, cet épisode de la femme adultère, de la façon dont la religion, entre guillemets, peut parfois déformer le message de l'Évangile, comme on le disait tout à l'heure.
Absolument. Alors, on a parlé de l'amour humain qui peut mener sur un chemin de liberté. Vous auriez pu intituler votre livre « Pour un christianisme d'amour », Michel, plutôt que « Pour un christianisme de liberté ». Est-ce que c'est votre attachement au christianisme libéral qui vous a fait choisir ce titre « Pour un christianisme de liberté » ?
Pour être tout à fait honnête, c'est l'éditeur qui a choisi le titre et je lui ai fait observer que c'était peut-être un petit peu ennuyeux parce que le chapitre 12 s'intitule « Christ nous délivre du christianisme », c'est-à-dire une espèce de fabrication théologique bien ficelée, etc. Parce qu'en fait, notre amour du Christ, c'est l'amour d'une personne et une personne, on ne peut jamais l'enfermer dans des dogmes, dans des idées. Je suis souvent hérissé par l'emploi du possessif « ma femme, mon fils », etc. Ben non, ce n'est pas ma propriété, ce n'est pas mon Dieu non plus. Dieu, c'est une personne qu'on rencontre, on n'a jamais fini de la rencontrer. Et on ne peut pas lui faire plus pire injure que de chercher à la définir, à la mettre en boîte. « Oh, je te connais, toi », etc.
Michel, est-ce que ce sera… vous avez parlé de votre roman, que vous allez reprendre un roman commencé lorsque vous aviez 16 ans. J'ai reçu des récits huguenots. Vous picorez dans tout ce qui vous intéresse dans l'écriture. Allez-vous continuer vers d'autres versants ?
Oui, c'est-à-dire je suis co-animateur d'un groupe biblique dans ma paroisse et ces dernières années, ça a duré 4 ans. Dans une année sur le prologue, on a étudié l'évangile de Jean, et donc il est sorti de mes propres réflexions, pas de celles du groupe, un petit livre qui va paraître à l'automne prochain sur l'évangile de Jean, et alors là encore j'hésite un peu sur le titre, je suis très mauvais pour choisir les titres, dans ma jeunesse j'avais été accueilli dans l'amitié de Gilbert Cesbron qui avait le génie des titres, et c'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'après sa mort, sa veuve m'a demandé de ranger un peu les archives, et j'ai trouvé des titres il n'y avait pas encore de livre qui correspondait, mais c'était des titres. Et comme c'était un manuscrit, c'était un document un petit peu ancien, hein, il avait utilisé pour des chapitres certains de ses titres, etc. On avait l'impression que pour lui, le titre, c'était une espèce de poésie magique, et puis qui parfois appelait à sa suite un livre, mais pas toujours. Hein. Là, je ne suis pas très bon pour les titres, effectivement. J'ai beaucoup de mal, et parfois, c'est l'éditeur. Il est arrivé une fois même que c'était sans demander mon avis, c'est l'éditeur qui trouve le titre. Et puis, pour répondre à votre question, effectivement, il y a un lien, bien sûr, avec mon adhésion au protestantisme libéral. Je pense que j'ai été protestant libéral avant d'être protestant. Il y a une dizaine d'années, effectivement, je me suis dit, pourquoi continuer à être un catholique malheureux dans l'Église catholique alors je pourrais être un protestant heureux dans l'Église protestante. Donc j'ai fait le choix et le pas de changer d'Église. Mais je pense que finalement, j'avais des idées très proches du protestantisme libéral. La seule différence, c'est que c'était considéré comme hérétique. Tout au long de mes études de théologie, j'ai eu des collègues que ça scandalisait. Je pense à l'un d'entre eux qui, furieux et à bout d'arguments, m'avait dit « Je vais aller prier pour toi à la chapelle, tu n'es qu'un sale hérétique. » Ça veut dire que finalement, cette idée du christianisme comme fondamentale liberté, c'est une racine qui est vraiment très profonde en moi.
Merci. Merci Michel Barlot. Je rappelle que nous avons évoqué votre livre qui est paru aux éditions Empreintes pour un christianisme de liberté.
À bientôt.
À bientôt. Cette émission en compagnie de Michel Barlot, cette émission d'Évangile et Liberté s'achève. Je redonne le téléphone de notre secrétariat 09 53 43 45 71. Là, vous pouvez demander 3 exemplaires du journal Évangile et Liberté et Karim se fera un plaisir de vous les faire parvenir. Au revoir.